9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous l'avons tous dans notre poche, elle nous simplifie la vie et nous surveille en même temps. C'est l'intelligence artificielle dont les applications reconnaissent des voix et des visages, font des traductions, nous aident à conduire nos voitures, nous inondent de publicités ciblées, mais aussi détectent des tumeurs sur les images médicales. Et demain, beaucoup plus encore, mon premier invité est l'une des figures majeures de cette révolution, Yann LeCun, français installé aux États-Unis depuis 30 ans, patron de la recherche fondamentale chez Facebook. Ses travaux lui ont valu le prestigieux prix Turing, le Nobel des informaticiens. Demain, l'intelligence artificielle rendra-t-elle le monde meilleur ? Yann LeCun, qui publie « Quand la machine apprend » chez Odile Jacob, sera avec nous dans un instant. Demain, les 30 ans de la chute du mur de Berlin, novembre 89, événement considérable qui a précipité la dissolution du bloc soviétique et la fin d'un demi-siècle de guerre froide. J'ai invité Michel Meyer, l'ancien correspondant d'Antenne 2 en Allemagne, et la journaliste Michèle Fine qui raconte ce soir sur France 5 dans un document passionnant l'affaire Farewell, cet espion soviétique qui livrait aux Français les secrets du KGB. Vetrov, son vrai nom, fut la plus grande taupe de la guerre froide et il a contribué lui aussi à changer l'histoire. Enfin, dans C'est arrivé demain, le retour en chanson et en images de Vincent Delerme, un premier film et un nouvel album, toujours inspiré par les souvenirs et les émotions du quotidien.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Il y a un peu plus de 50 ans au cinéma, un ordinateur réputé infaillible entrait en rébellion et prenait le contrôle d'un vaisseau spatial face à un astronaute impuissant.
Carl, est-ce que tu me reçois ?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Est-ce qu'il ne marche pas ?
Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas.
Qu'est-ce que tu entends par là, Carl ?
Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril.
Un extrait de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick qui concentre encore aujourd'hui les enjeux et les fantasmes de l'intelligence artificielle. Bonjour Yann LeCun.
Bonjour.
En 68, à la sortie de 2001, vous avez 8 ans. Vos parents vous emmènent voir le film. Et vous vous en souvenez encore ?
Oui, ça a été un choc pour moi, bien sûr, découvrir. J'ai toujours été intéressé par la science, déjà tout petit, et surtout par justement le mystère de l'intelligence. Donc ce film réunissait à la fois l'émergence de l'intelligence dans l'humanité et le concept d'intelligence artificielle. Donc j'ai trouvé ça fascinant.
La naissance d'une vocation ?
Un petit peu, oui, on pourrait dire ça.
Avec une interrogation qui se prolonge donc encore avec plus d'acuité aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait avoir des machines qui nous dépassent ou qui nous égalent intellectuellement ? Et là, vous répondez très vite dans votre livre. Non, on en est encore très très loin. Pourquoi ? C'est une question de nature ou de capacité ?
Oui, je dis deux choses dans le livre. Un, on en est encore très très loin. Deux, il ne fait aucun doute que ça arrivera. C'est-à-dire qu'il ne fait absolument aucun doute que la technologie et la science fera des progrès suffisants pour obtenir des machines qui seront supérieures aux humains dans tous les domaines où les humains ont des capacités.
Mais au point de nous tenir tête, comme on vient de l'entendre dans 2001.
Alors
dans
non, il ne faut pas confondre l'intelligence, l'autonomie,
ouais.
Et
la raison
et la volonté de dominer. C'est-à-dire qu'on a toujours ce fantasme, un peu les scénarios, les Terminator, un petit peu HAL aussi, dans lequel les machines veulent, à partir du moment où elles sont intelligentes, dominer l'humanité. Mais ça, en fait, c'est une projection de la nature humaine sur les machines. Elles auront une nature très, très différente.
Alors, on va soulever le capot du moteur, si je puis dire, ce que vous faites abondamment dans votre livre, y compris avec des équations mathématiques pour les plus pointus, mais les béotiens comme moi peuvent sauter ces pages.
Exactement.
La saga demeure passionnante. Le sens de vos recherches, Yann LeCun, qui vous ont valu le prix Turing, qu'on présente comme le Nobel d'informatique, c'est l'invention et le progrès du deep learning, l'apprentissage profond, c'est-à-dire la capacité pour une machine d'apprendre et de se former elle-même grâce à des couches successives de neurones artificiels qui permettent des centaines de milliers de connexions différentes. Je ne dis pas de bêtises. C'est sur le modèle du cerveau humain ?
Alors, ce n'est pas sur le modèle du cerveau humain. C'est un peu inspiré du fonctionnement du cerveau. Le cerveau, l'intelligence émerge de la connexion de très nombreux neurones les uns avec les autres et l'apprentissage dans le cerveau. Se produit par la modification des connexions entre ces neurones. Donc cette idée de base a été recyclée dans ces systèmes. C'est une idée qui date des années 50, en fait. Et donc effectivement, on simule dans un programme d'ordinateur de très grands réseaux de neurones de ce type-là, et l'apprentissage procède par modification des connexions entre ces neurones.
Première application concrète pour AT&T, le grand opérateur américain, un système de reconnaissance visuelle qui lie le montant des chèques bancaires, c'était il y a 25 ans, et c'est vous qui avez développé cela, Yann Lequin.
Oui, avec mes collègues à AT&T, en effet, ça a été très largement déployé par certaines banques, y compris des banques françaises d'ailleurs.
Oui, bien sûr, il y a des machines comme ça. Ouais.
Au milieu des années 90. Donc c'était un des grands succès justement de ces réseaux de neurones artificiels dans les années 90, mais la communauté de la recherche s'est un peu détournée de ces méthodes-là entre la fin des années 90 et disons, il y a un peu moins de 10 ans, à cause de la limitation du fait que ces systèmes requièrent d'abord des ordinateurs très, très puissants, qui ne sont apparus que récemment, et par ailleurs des sources de données très importantes. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup, c'était avant l'Internet, on n'avait pas beaucoup de sources de données vraiment importantes, à part pour des choses comme la reconnaissance de caractère.
Mais aujourd'hui, on peut dire que les limites reculent d'année en année. Grâce à votre spécialité, les réseaux convolutifs avec l'assemblage de modules paramétriques différenciables. Et là, on atteint ou on dépasse la limite de ma compréhension, sauf si vous parvenez, Yann Lequin, à me le formuler clairement, à me le reformuler.
Oui, alors les réseaux convolutifs, oui, c'est un petit peu, mon nom est un peu attaché à ce concept. Ce sont des réseaux neurones multicouches qui sont, dont l'architecture, c'est-à-dire le type de connexion entre les neurones, est inspiré de l'architecture du cortex visuel et même du cortex auditif. En fait, il y a une espèce de similarité entre les deux. Les neuroscientifiques, depuis une soixantaine d'années, en fait, ont beaucoup étudié le type de connexion qui existe entre les neurones dans le cortex visuel. Et depuis les années 70-80, il y a quelques modèles qui s'inspirent de ça. C'est un peu ce dont je me suis inspiré pour construire ces réseaux convolutifs. Alors, ils ne copient pas l'architecture du cerveau, mais ils s'en inspirent un petit peu à la manière dont on s'inspire des oiseaux pour construire des avions. C'est-à-dire que les avions ont des ailes, ils arrivent à se propulser dans l'air comme les oiseaux, mais bien sûr, les détails sont très différents, très, très simplifiés. Donc, c'est un petit peu le même genre d'analogie.
Et donc, c'est ça qui a fait progresser notamment les machines à reconnaissance visuelle et vocale.
Oui, donc quand on entend parler d'intelligence artificielle pour l'assistance à la conduite, pour l'analyse d'images médicales, pour le tri d'informations dans les réseaux sociaux ou dans les moteurs de recherche, etc., la reconnaissance faciale, tout ça utilise des réseaux convolutifs. Et même la reconnaissance de la parole. Quand vous parlez à votre téléphone, c'est un réseau convolutif qui reconnaît votre voix.
Alors, on va voir dans un instant ce que tout cela implique et ce que ça va impliquer dans notre vie quotidienne. Yann Lequin, prix Turing, professeur à New York University, patron de la recherche fondamentale chez Facebook. À tout de suite.
Europe 1, de 9h à 10h le dimanche, vous êtes avec Patrick Cohen pour cet arrivé demain.
Avec le pionnier du Deep Learning, sommité de l'intelligence artificielle, patron de la recherche fondamentale chez Facebook, auteur de « Quand la machine apprend » chez Odile Jacob, l'intelligence artificielle. J'ai dans ma poche, comme beaucoup, un smartphone qui est un concentré d'intelligence artificielle, du moins des applications d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va nous arriver dans les prochaines années? C'est dans le domaine médical que l'intelligence artificielle va nous rendre le plus de services, Yann Lequin.
Je pense qu'il va y avoir beaucoup de domaines qui vont être très visibles au public, comme certainement dans le domaine médical, dans le domaine des transports. C'est déjà le cas que toutes les voitures qui sortent aujourd'hui ont des systèmes d'assistance à la conduite, de freinage automatique, par exemple, s'il y a un piéton devant nous, etc. Même les voitures bas de gamme. Les statistiques montrent que ces systèmes ont réduit les collisions de 40%. Donc ça sauve des vies. Et tous ces systèmes utilisent des réseaux convolutifs. Je dois le préciser.
Bon.
À la base. Et donc ça, c'est très visible dès aujourd'hui. Il y a beaucoup d'applications qui sont en train d'être déployées effectivement dans le domaine de l'imagerie médicale, dans d'autres domaines de la médecine, de la biomédecine en général, pour la médecine personnalisée, la génétique et autres. La découverte de nouveaux médicaments.
Voilà. Alors, il y a des sujets plus polémiques. Vous y êtes impliqué, notamment celui de la reconnaissance faciale, parce que ça se développe à très grande vitesse et pas seulement dans des villes ou dans des pays démocratiques. C'est quelque chose qui devrait être facilité, se généraliser rapidement.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que certainement, la technologie de reconnaissance faciale à grande échelle existe. Elle est déployée dans des pays comme la Chine, où la force des institutions démocratiques n'est pas celle qu'on connaît dans l'Occident. Donc on a effectivement des peurs de dérive un peu sécuritaires avec ces technologies qui ne sont pas nouvelles. Hein. Ce n'est pas attaché particulièrement à l'intelligence artificielle ou à la reconnaissance faciale. Toute nouvelle technologie en fait peut être utilisée à des fins bénéfiques ou négatives. Ce qui fait qu'elles sont utilisées dans la bonne direction, c'est la force des institutions démocratiques, justement.
Oui.
Qu'il faut protéger.
On pourra identifier des individus de façon massive et de plus en plus facilement, il y a le cas ?
C'est déjà le cas, on peut déjà le faire. Il ne faut pas le faire de manière inconsidérée. Il faut probablement des réglementations très strictes sur les situations dans lesquelles on s'autorise à faire ce genre de choses, sur même l'utilisation par les gouvernements, par les entreprises privées, etc. Il faut s'assurer que les données correspondantes, c'est-à-dire les bases de données de reconnaissance, sont protégées et sont gardées privées. C'est quelque chose de très important. Oui.
Et pour ce qui est de la recherche fondamentale que vous dirigez chez Facebook, Yann Lequin, c'est exclusivement pour Facebook que vous travaillez ou vos découvertes peuvent profiter à tout le monde ?
Alors, l'organisation que j'ai créée à Facebook s'appelle Facebook AI Research, FAIR, F-A-I-R.
Ouais.
On pratique la recherche ouverte, c'est-à-dire que tous nos résultats sont publiés et tous nos programmes en fait, sont même distribués en open source pour en faire profiter la communauté de la recherche internationale. La raison étant que le problème principal auquel on fait face n'est pas de savoir si on est un petit peu en avance sur nos concurrents Google et autres, mais c'est qu'on n'a pas vraiment les technologies dont on a besoin pour construire les services dont on a besoin. On voudrait bien, par exemple, pouvoir construire des assistants virtuels qui pourraient nous aider dans notre vie tous les jours, répondre à toutes nos questions, etc. On n'a pas la technologie pour ça, on n'a même pas la science de base. Donc ce qu'il faut faire, c'est essaimer la communauté internationale, aider la communauté à progresser. Et le fait qu'on pratique cette recherche ouverte, en fait, a incité d'autres compagnies aussi à ouvrir un petit peu leur recherche. Donc c'est une communauté internationale qui s'échange énormément d'informations et c'est ce qui fait que le progrès a accéléré.
Alors une communauté internationale, mais une communauté de scientifiques pour beaucoup basés aux États-Unis. La carrière, les recherches que vous avez menées, Yann Lequin, elle n'aurait pas pu avoir lieu en France. Vous avez un chapitre, quelques lignes assez sévères sur l'état de la recherche française.
Alors sévère, mais quand même optimiste, en ce sens que je pense qu'il y a un changement du terreau de l'engouement pour la science et technologie, etc. en France, qu'on observe depuis quelques années, qui, à mon avis, est très bienvenu. Par ailleurs, on a les talents en France. Il y a beaucoup de...
Oui, mais ils partent aux États-Unis.
Pas tous, non, qui restent en France. En fait, une des raisons pour lesquelles nous avons, à Facebook, établi un laboratoire de recherche en France, et en grande partie due au fait que, même c'est l'unique raison, due au fait qu'il y a une grosse concentration de talents en France, particulièrement autour de Paris, et ça nous permet d'avoir accès à ces talents. Donc, ça donne des opportunités aux jeunes chercheurs français de faire la recherche en France, de ne pas quitter la France. C'est une opportunité que je n'ai pas vraiment eue à l'époque où j'ai quitté la France il y a une trentaine d'années.
Je reviens au début de notre entretien avec HAL, baptisé autrement en français, le super ordinateur d'Odyssée de l'espace. À la fin de votre livre, vous vous demandez si les machines auront un jour une forme de conscience et si elles auront un jour des émotions. Et à ces deux questions, à ma grande surprise, vous répondez oui. Expliquez-nous, Yann Lequin.
Alors, je vais commencer par les émotions. Je pense que les émotions sont inséparables de l'intelligence autonome. C'est-à-dire, si on fait des machines dont la fonction n'est pas déterminée directement, c'est-à-dire, par exemple, si on construit une machine, une voiture autonome, la voiture autonome doit conduire, elle doit rester dans les clous, dans l'autoroute, etc. On peut programmer directement son comportement, enfin en tout cas l'entraîner à avoir un comportement particulier, mais elle n'est pas vraiment autonome. On lui donne directement les actions qu'elle doit faire dans des situations particulières. L'intelligence autonome est un peu l'intelligence des animaux et des humains, dans lequel on a des pulsions qui nous disent quand on a faim, il faut se nourrir, mais la nature ne nous dit pas comment nous nourrir. Donc toute la nature humaine, enfin toute l'intelligence humaine sert à en fait satisfaire ce besoin. De trouver des moyens en fait, de satisfaire ce besoin. Ça, c'est l'intelligence autonome qui est définie par un objectif, mais qui n'est pas définie par une série d'actions qui sont prédéterminées de manière instinctive. Alors, si on a une intelligence autonome, on a nécessairement des émotions, parce que ça veut dire qu'on a des pulsions qu'il faut satisfaire. On a aussi la capacité à anticiper le résultat de nos actions, l'effet de nos actions. Donc ça veut dire, par exemple, qu'on peut anticiper si une situation est dangereuse, ce qui produit la peur, ou si une situation...
Si elle procure du plaisir et donc de la satisfaction.
Voilà, donc la satisfaction anticipée, et puis quand cette pulsion est satisfaite, de la satisfaction directe. Donc les machines autonomes auront des émotions, c'est inévitable.
À condition d'appeler ça des émotions et de considérer qu'elles ont, je reviens au premier point, une forme de conscience, c'est-à-dire une conscience d'être soi-même, d'être un objet autonome.
On peut avoir des émotions sans être conscient. Tout un tas d'animaux ont plein d'émotions, même des animaux pour lesquels on n'a pas de test particulier pour la conscience. Et ça, en fait, ça pose une question très importante, c'est comment définir la conscience. Enfin, on ne sait pas vraiment définir la conscience. Enfin, vous parliez à mon collègue Stanislas Dehaene, qui est spécialiste de la question, qui a écrit des livres là-dessus, dont tout le monde n'est pas d'accord sur la nature de la conscience. C'est une notion qui, à mon avis, n'est pas aussi importante que ce qu'on pense, en fait.
Qu'est-ce qui reste à découvrir dans votre domaine, Yann Lequin?
Presque tout. On voudrait pouvoir découvrir les mécanismes par lesquels les humains et les animaux apprennent des quantités de connaissances sur le monde absolument monstrueuses dans les premières semaines, les premiers mois de la vie. On ne sait pas faire ça avec les machines. C'est ça qui conduit justement à ce dont on parlait tout à l'heure, le sens commun. C'est l'accumulation de toutes les connaissances sur le fonctionnement du monde.
Et on pourra le découvrir un jour.
Alors, c'est là-dessus qu'on travaille, mais bon, combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Donc, quand on est petit, on découvre le monde, on observe tout autour de soi, on a très peu d'interaction avec le monde, mais au bout de 9 mois de vie, comprennent, par exemple, qu'un objet qui n'est pas supporté va tomber à cause de la gravité. Ça leur prend 9 mois. Très tôt, au bout de 2 ou 3 mois, ils comprennent que quand un objet est caché par un autre, il est toujours là, il existe toujours, c'est la notion de permanence des objets. Donc toutes ces propriétés en fait, du monde physique et de l'interaction avec d'autres personnes est apprise dans les premiers mois de la vie par observation. On ne sait pas reproduire ce type d'apprentissage avec les machines. Le type d'apprentissage qu'on fait avec les machines est beaucoup plus simple que ça.
Donc les progrès qui restent à faire, ils ne tiennent pas aujourd'hui à la capacité des machines ou à leur accès à des bases de données toujours plus grandes, mais ils tiennent bien à des changements de nature dans le mécanisme de fonctionnement ou de raisonnement.
De principe d'apprentissage. Donc c'est ce qu'on espère faire fonctionner, c'est quelque chose que j'appelle l'apprentissage auto-supervisé. C'est du domaine de la recherche, c'est de la science, c'est pas la technologie, c'est de la science. Donc il faut découvrir de nouvelles méthodes pour faire en sorte que on puisse, par exemple, permettre à une voiture autonome d'apprendre à conduire en une vingtaine d'heures, à peu près la vitesse d'un humain. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'une voiture, en utilisant les méthodes actuelles, se conduise pendant des millions d'heures avant qu'elle arrive à conduire correctement sans compter d'accidents. Et puis, dans ce million d'heures, elle causerait des dizaines et des dizaines de milliers d'accidents.
Yann Lequin, quand la machine apprend, la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond, ça vient de paraître chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Yann Lequin. Je vous laisse repartir à New York, où vous êtes basé, patron de la recherche fondamentale chez Facebook et professeur à New York University. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, la chute d'un mur, la fin d'un monde. Berlin va fêter les 30 ans de ses retrouvailles. On va se souvenir aussi d'un traître ou d'un héros, c'est selon Vladimir Vetrov, alias Farewell, qui a saboté tout le réseau d'espionnage technologique et industriel déployé par le KGB en Occident. On en parle avec Michel Meyer et Michel Fin.
Europe 1. C'est arrivé demain, se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bien plus qu'un simple mur, il a été le symbole pendant près de 30 ans du clivage politique et idéologique de la guerre froide. Et sa chute en novembre 89 a changé la face de l'Europe et du monde. Mais avant de rappeler la stupeur de son effondrement, il faut se souvenir du choc de son édification. C'est dans la nuit du 12 au 13 août 61 que le gouvernement est-allemand érige une séparation pour empêcher l'exode massif de ses ressortissants vers l'Ouest. Envoyé spécial d'Europe 1 à Berlin, Claude Guillaumin.
Berlin est vraiment coupé en deux. Le rideau de fer est tombé à la limite du secteur soviétique et des secteurs occidentaux. Un rideau de fer constitué pour durer. Des poteaux en ciment de 2 mètres de haut, reliés par 7 rangées de fils de fer barbelés. Les routes, les rues sont barrées par des chevaux de frise et des barricades de pierre. Ici Claude Guillaumin qui vous a parlé de Berlin, Europe numéro 1.
Bonjour Michel Meyer.
Bonjour.
Vous avez été le correspondant d'Antenne 2 et de Radio France en Allemagne pendant une quinzaine d'années jusqu'en 86. Vous avez connu ce Berlin coupé en deux. Ça restait un traumatisme pour les Berlinois.
c'était à l'époque un traumatisme. On changeait de monde à partir du moment où, occidental, on franchissait le checkpoint Charlie et où on observait les Vopo qui, avec des miroirs, essayaient de savoir ce qu'il y avait sous la caisse de votre voiture.
La Vopo, les Vopo, c'était les policiers.
Les policiers. Et donc, il y avait non pas un stress, mais un sentiment surréaliste chaque fois que je franchissais ce mur, dans un contexte où, à l'époque, j'avais évoqué les ventes de prisonniers politiques par les Allemands de l'Est au kilo, en quelque sorte, et à la compétence et au niveau des études. Et j'allais voir donc les avocats qui s'occupaient de cela, et j'en menais pas large à certains moments. Voilà.
9 novembre 89, donc 28 ans après, ce que vous rappelez avec François Desnoyers dans « Mur de Berlin, le monde d'après » qui paraît chez Larousse, Michel Meyer, c'est que le mur tombe par inadvertance. C'est la bévue d'un apparatchik Günther Schabowski qui entraîne la foule à briser le rideau de fer.
Vous l'avez dit, et ce Günther Schabowski, en définitive, il a été induit en erreur par le numéro 1 de l'Allemagne de l'Est de l'époque, à savoir Egon Krenz, qui, ayant besoin d'argent et de fonds venant de l'Ouest, comme c'est le cas d'ailleurs depuis plusieurs années à l'époque, fait en sorte d'offrir à l'Allemagne de l'Ouest de nouveaux postes frontières qui permettront la fluidité entre les deux Allemagnes de façon plus humanitaire.
De nouveaux points de passage.
De nouveaux points de passage. Et bien entendu, lorsqu'il prend son communicateur en chef, c'est-à-dire Schabowski, il lui raconte cela, mais de façon insuffisante. Il ne lui dit pas que c'est pour demain ou après-demain. Il lui dit, sans trop lui dire ou en s'exprimant mal, qu'importe. Il lui dit que c'est dans les prochains temps et c'est la monnaie d'échange. Sauf que Schabowski, il n'a pas compris cela. Et dans la précipitation, il se rend dans cette fameuse conférence de presse.
Devant le parterre de tous les journalistes étrangers.
Journalistes étrangers, et il n'a pas l'habitude du maniement avec des journalistes étrangers, puisque c'est des béni-oui-oui qu'il a normalement face à lui. Et là, il commet la faute dramatique à une question du journaliste de l'agence de presse italienne ANSA. Il répond, pressé dans ses derniers retranchements, absoforte,
donc
c'est tout de suite. Et l'erreur, mais tout le monde ne réagit pas de façon aussi rapide que cela.
Et il ajoute, sans délai.
Et dans ce contexte-là, bien entendu, les journalistes occidentaux qui sont là, eux-mêmes ont un temps de retard, parce qu'ils se disent, ce n'est pas possible que ce soit aussi rapide que ça. Et dans ce contexte-là, le journaliste de l'agence ANSA a un appel de son rédacteur en chef qui lui dit « c'est une connerie, tu te tais, etc. » Ce qui fait qu'il sera doublé par Associated Press. Et dans ce contexte-là, la crédibilité d'Associated Press fait que c'est béni. Le news est béni à partir du moment où le sceau américain, du grand professionnalisme américain, est marqué par le collègue.
C'est un point intéressant de votre récit, Michel Meyer, parce que l'emballement ne vient pas des chaînes d'info continue qui n'existaient pas à l'époque, mais des agences de presse. Et à 19h04, c'est un flash d'AP, d'Associated Press, qui annonce...
Rien à dire d'autre.
En extrapolant un peu, la RDA ouvre ses frontières, c'est le titre du flash. Et donc la nouvelle se répand, la foule aussi.
Avec, bien entendu, la télévision est-allemande qui reprend la nouvelle en premier, avant que les chaînes occidentales, et notamment ouest-allemandes, osent mettre leur grain de sel et, bien entendu, valider cette information. Et, bien entendu, ce ne sera qu'à partir de 9h30 que les premiers Allemands de l'Est se manifesteront dans les rues adjacentes du mur, au niveau de pratiquement tous les points de passage de Berlin, avec notamment un monsieur que j'ai rencontré par la suite qui s'appelle Schwanitz, qui était le numéro 2 de la Stasi à l'époque, le numéro 1 étant le monstre qui s'appelait Milke. Eh bien, ce monsieur m'a dit qu'il était en train de dîner chez lui et il disait quelle est cette foule qui est en train de traverser et de se manifester, etc. Il n'était pas au courant. Et il a appelé Milke pour lui dire ce qui se passait, et Milke non plus n'était pas au courant. C'est-à-dire que toute cette effervescence médiatique a bouleversé la logique de la machine médiatique et a fait en sorte que tout le monde a été tourneboulé.
Voilà. Alors, le sens commun nous dit aujourd'hui que la chute du mur de Berlin est la cause de l'effondrement du bloc communiste, mais vous soulignez dans votre livre, et je pense à juste titre, Michel Meyer, que la chute du mur est sans doute la conséquence de sa déliquescence, parce qu'il faut le rappeler, la RDA à ce moment-là est au bord de la faillite.
Absolument, il est au bord de la faillite, et il est au bord de la faillite depuis plusieurs années. Il y a eu à deux reprises des factures et des notes de l'ordre du 1,5 milliard de Deutschmark à l'époque, qui ont été offertes à l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest pour renflouer la banque centrale de l'Est. Et au-delà de cela, il y a eu également, pour comprendre ce qui s'est passé au niveau du mur de Berlin et de la chute que l'on évoque, il y a eu quelque chose de fondamental. Et un acte commis le 4 avril 1989. Alors, à ce propos, je dis simplement une chose. Moi, je n'ai rien compris au moment de la chute du mur
c'est
de Berlin.
C'est la Hongrie, c'est ça ?
L'histoire de la Hongrie. Ouais. Je n'ai rien compris au niveau de la chute du mur de Berlin et j'étais vexé comme un pou de n'avoir rien compris. Donc, j'ai fait le maximum pour que, en revenant en arrière, je comprenne un certain nombre de choses. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que le 4 avril, il y a Alfred Herrhausen, le cerveau stratégique de Helmut Kohl, qui est dans le bureau de M. Nemetz, c'est-à-dire le premier ministre hongrois, avec Horst Telchik, le conseiller diplomatique de Kohl, et qui met 1,5 milliard d'euros, de Deutschmark sur la table. Et ça, c'est fondamental, parce qu'après, en avril, il se passera des choses au niveau de la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Il se passera d'autres choses dans le courant de l'été, souvenons-nous, où la perméabilité du rideau de fer a été établie à plusieurs reprises, d'où un autre effet d'entraînement qui a succédé avec l'envahissement des ambassades d'Allemagne, des Allemands qui prenaient leurs vacances sur les bords du lac, Allemands de l'Est qui prenaient leurs vacances sur les bords du lac Balaton, vous voyez. Et cette problématique est née de là.
Je vous interromps, Michel Meyer, pour présenter celle qui est votre invitée à vos côtés, parce que cette déliquescence du bloc communiste à laquelle a contribué un homme dont on a longtemps connu que le surnom Farewell, agent du KGB qui a livré au service français une bonne partie du réseau d'espionnage industriel déployé en Occident. Bonjour Michel Fine.
Bonjour.
Ancienne d'Antenne 2, vous aussi, et de France 2. Vous avez réalisé un document passionnant, Farewell, l'espion qui aimait la France, diffusion ce soir sur France 5 à 22h30, pour lequel vous avez retrouvé tous les acteurs encore vivants d'une histoire qui a changé le cours de l'histoire. En France, en Russie, aux États-Unis, les patrons de la DST, l'officier traitant de Vetrov, sa femme et son fils, les conseillers de Reagan. On en parle dans 1 minute 30.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec Michel Meyer, auteur avec François Desnoyers de Mur de Berlin, Le monde d'après chez Larousse. Et Michel Fine qui raconte dans un document qui sera diffusé ce soir l'histoire de la plus grande taupe de la guerre froide, Farewell, surnom donné par les services français à un agent du KGB, Vladimir Vetrov, qui avait été en poste à Paris et qui, à partir de 1980, fournit à la DST des centaines, des milliers de documents ultra-secrets sur les réseaux soviétiques déployés en Occident. Et il ne le fait pas pour l'argent. Hein.
A priori, il ne le fait pas pour l'argent. Il le fait d'abord parce qu'il veut éviter une guerre entre l'URSS et les États-Unis. Il y a un vrai climat de guerre à l'époque. Hein, il a peur. Et puis, il le fait surtout par vengeance. Parce que Vetrov...
Il est au placard.
Il est au placard. Il a été en poste à Paris où il a adoré la vie parisienne. Il a été en poste au Canada. Au Canada, il a eu un petit souci. Il a failli être recruté par les services canadiens. Le KGB l'a appris, parce que le KGB avait infiltré les services canadiens, et l'a rapatrié à Moscou. Et à Moscou, on l'a mis au placard, dans un service qui n'était pas pour lui très intéressant, qui était la direction T, qui concentrait, centralisait tous les renseignements scientifiques et technologiques que le KGB avait volés à l'étranger depuis des dizaines d'années.
Alors c'est une mine considérable, et ce que les services français puis les Américains découvrent, c'est l'ampleur du pillage technologique et industriel auquel se livrent les Soviétiques depuis des années.
Depuis des années, ils ont tout volé. Ils ont tout piqué. Ils ont piqué les plans des sous-marins nucléaires, les plans des centrales atomiques, les plans des avions. C'est absolument considérable.
Des navettes spatiales
et des navettes spatiales. Et 70% de ce qu'ils ont volé, ils l'ont volé dans des entreprises américaines, sur le sol américain ou sur le sol indien, etc. Donc ils ont tout volé. Les Américains sont absolument stupéfaits de se rendre compte de ça. Ça leur a permis d'économiser des milliards et des milliards de dollars. Et le pire, c'est qu'ils avaient des savants, les soviétiques, qui étaient de bons savants. Mais les savants étaient dégoûtés parce que quand eux proposaient des avancées, on leur disait non, mais on a trouvé ça à l'Ouest, c'est beaucoup plus important. Donc on faisait passer les secrets piqués à l'Ouest avant les secrets...
Des Américains informés en direct par François Mitterrand qui vient d'accéder au pouvoir lors d'un sommet à Ottawa. Il le dit à Reagan et ça lui permet de montrer à Reagan que malgré ses ministres communistes, bah, vous voyez, je ne suis pas un féodé à Moscou. Et un pacte industriel, alors ça c'est une partie absolument passionnante, c'est que les Américains mettent au point un programme d'intox et de sabotage de la technologie soviétique. Expliquez-nous, Michel Fine.
Reagan va faire créer une petite équipe au sein du Conseil de sécurité américain. Et dans cette petite équipe, il y a un type qui ne connaît pas du tout le monde du renseignement, qui est spécialisé en économie, qui s'appelle Gus Weiss. Gus Weiss, c'est un génie, c'est un fou, il est mort depuis. Et Gus Weiss va avoir cette idée folle, il va dire « Ah bon, ils nous pillent ? Eh bien, très bien. Eh bien, les secrets qui veulent nous voler, on va les leur donner. Mais avant... on va les caviarder, ces secrets-là. On va leur donner des secrets faussés. Donc, ils vont leur balancer des logiciels avec des chevaux de Troie à l'intérieur. Ils vont leur donner des plans complètement faussés. Et
ça aboutit à l'explosion d'un gazoduc sibérien parce qu'il leur il manque, c'est pas les bonnes côtes quoi pour les pièces. Donc forcément ça s'ajuste pas, c'est trop grand, trop petit, etc. Ou ça déraille, ça se détraque comme ça un gazoduc qui explose à cause de l'intox américaine.
Alors il n'y a pas eu que le gazoduc, hein. Il y a eu tout un tas d'explosions à l'époque un peu bizarres, de dépôts de munitions. L'année 83 est riche en explosions dont on ne saura peut-être jamais si elles ont été le fait des Américains ou pas. Enfin bon.
Farewell, Vetrov arrête tout en janvier 82, après 14 mois de double jeu. Il est arrêté dans des circonstances troubles, il tue un homme, tente de tuer sa maîtresse. Mais on ne sait pas si c'est un fait divers, enfin, ou s'il a été démasqué, ou vous pensez que c'est un fait divers, Michel Fine.
C'est très difficile de penser quelque chose dans ce monde du renseignement qui est une espèce de poker menteur où certains vous donnent une version et d'autres vous soutiennent la version absolument inverse. La version des soviétiques, c'est que Vetrov avait une maîtresse qui était la traductrice de son service.
Elle travaille au KGB.
Elle travaille au KGB. C'est elle qui lui donne la plupart des documents d'ailleurs parce qu'elle est traductrice. Et a-t-elle été au courant de ce que faisait Vetrov ou pas ? Officiellement, on ne sait pas. Toujours est-il qu'un soir, il veut quitter sa maîtresse. Et avant de la quitter, il l'invite à boire une coupe de champagne dans sa voiture, un soir sur un parking. Et tout d'un coup, que se sont-ils dit ? On ne sait pas. Tout d'un coup, il s'énerve, il essaie de la tuer. Il lui tape sur la tête avec la bouteille de champagne. Et là, il y a un type, un policier, un milicien qui arrive, qui entend du bruit, qui frappe à la porte. Et Vetrov va tuer le milicien. Ludmila, la maîtresse, va survivre. Elle va s'enfuir et elle va aller dire à la police « Il a essayé de me tuer ». Et là, Vetrov va être arrêté.
Arrêté.
Donc, officiellement, à ce stade, c'est un fait divers.
Puis déporté au goulag, où là, il sera vraiment démasqué. Il sera fusillé en janvier 85, à 54 ans. Michel Meyer, votre regard là-dessus, il a réellement affaibli, et peut-être plus que ça, Vetrov, la puissance soviétique.
Je pense que effectivement le pillage était énorme et dans ce pillage il y avait même, j'avais envie de le dire en surplus tout à l'heure, il piquait même les micro-switches des jouets d'enfants, hein, de Noël ou de Pâques.
Les machines à laver.
Par exemple. Mais l'usage qu'ils auraient pu en faire était moindre dans la mesure où ils piquaient de façon indifférenciée et s'il n'y a pas une stratégie systémique au niveau d'un pays et au niveau d'un plan technologique, le profit de ce genre de piquage, ça ne vaut pas grand-chose. Alors que les Américains, eux, étaient convaincus en constatant qu'ils avaient fait du vrac et qu'ils manquaient de discernement, que c'était exploitable. Et la machine de guerre américaine, en termes technologiques, déjà numérique à l'époque, a fait que la différence était déjà faite. Je pense. Et le profit peut être moindre. Voilà.
Michel Meyer, Mur de Berlin, Le Monde d'après avec François Desnoyers chez Larousse. Et Michel Fine, Farewell, L'espion qui aimait la France, diffusé à 22h35 sur France 5 et déjà disponible sur France.tv avec tous les témoins vivants, y compris celui qui a été l'officier traitant le français de Vetrov.
Patrick Ferrand.
qui parle...
L'excellent Patrick Ferrand.
Qui parle pour l'une des premières fois. Merci beaucoup Michel Fine, merci Michel Meyer. Dans un instant, Vincent Delerme.
Europe 1. La suite de cet arrivé demain, c'est jusqu'à 10h avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Notre invité ne fait rien comme tout le monde, même s'il touche beaucoup de monde. Mais ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est de sortir en même temps un album de chansons, Panorama, et un film. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Les deux nous parlent de sensations, d'images, de personnages qui sont restés dans nos mémoires, qui donnent sens à nos vies, qui ont fait ce que nous sommes. Ils nous parlent du temps qui s'enfuit.
À la fin, il restera la nuit Montauban. Une photo en 2003 et tu fumes sur le banc. Ton corps derrière la ville, tes cheveux sous mes doigts, immobile, ce qui restera.
Bonjour Vincent Delerme.
Bonjour Patrick.
Vos souvenirs, vos émotions du passé, est-ce que vous les notez dans des carnets comme l'un des personnages de votre film?
Non, pas trop. Déjà, en général, j'ai toujours l'impression de noter des émotions et des sensations, ça oui. Pas forcément du passé, mais je me suis rendu compte souvent, quand on me disait « mais en fait, cette chanson-là, le thème, c'est le temps » et tout ça. Et je me suis rendu compte que justement, quand on est sur ces terrains-là, du ressenti, en fait, très vite, les gens associent ça à des souvenirs qu'ils ont eux-mêmes. Et forcément, du coup, ça s'inscrit dans une sorte de boucle où tout se répond. Les choses qu'on vit aujourd'hui sont toujours en écho au passé. Ouais.
Donc ces émotions-là, elles sont dans votre mémoire sans que vous ayez besoin de les cultiver, de les entretenir, et ça revient vers vous naturellement.
Oui, parce que de toute façon, il faut ce filtrage-là, de se dire lesquelles tiennent la route sans qu'on les ait notées, quoi, d'une certaine manière. Lesquelles ont persisté, parce que finalement, on attend quand même qu'il y ait une sorte de répétition d'une même émotion avant de se dire que ça vaut la peine d'en faire une chanson.
Exemple avec cette... Amour adolescent dans la chanson qui donne son titre au film.
Je sais, cette forêt-là, 14 ans, les choses laissées là-bas, ultra moderne enfant. Je sais, ces années-là, les soirées, la fumée, la vodka, les amours, l'amitié. Je sais la chambre avec toi, à 5 heures dans la nuit qui tombe. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde.
Je ne sais pas si c'est tout le monde. Est-ce que c'est pas une coquetterie de dire ça, parce que vos chansons, votre univers, Vincent Delerme, touche beaucoup de monde?
En tout cas, c'est sûr que c'est un titre à l'envers, parce que c'est ce qu'on espère en tout cas. Quand tu fais chansons, on passe son temps à se dire bon, cette zone-là qui a priori ressemble à quelque chose qui devrait n'intéresser que moi, j'ai espoir que ça touche les gens en face. Donc sur les chansons, on fait ça. Et dans le film, j'étais content aussi de passer par d'autres personnages que moi pour justement provoquer la même chose, de montrer une sorte de galerie de gens que je trouvais assez touchant, en me disant, bon, possiblement les spectateurs qui les découvriront vont se dire « Ah, mais moi aussi, je ressens exactement la même chose. Ouais. » C'est ce qu'on cherche tout le temps.
Voilà, alors on trouve dans ce film où vous interrogez en quelque sorte la sensibilité de chacun d'entre nous, la part d'intimité et de mémoire qu'on a. On retrouve entre autres Alain Souchon, votre idole, Vincent de Dienne et l'immense Jean Rochefort pour sa dernière apparition devant une caméra.
Oui, c'était avec Jean, c'est quelqu'un que j'ai rencontré une dizaine d'années avant sa disparition. Je lui avais écrit une lettre pour lui demander de jouer dans un clip où il fallait enfiler des chemises hawaïennes et des tongs et attraper des maracas. Et évidemment, il était partant. Et puis après, on a passé pas mal de temps ensemble à souvent parler de plein de choses, mais notamment de cinéma. Et lui, il était toujours à dire « mais il faut faire un film, il faut que vous fassiez un film ». Donc le jour où je l'ai fait enfin, je lui ai dit « ça y est Jean, je sais que vous avez pris un peu votre retraite et que vous êtes retiré, mais je vous le dis quand même, ça y est, je fais mon film ». Il m'avait dit non dans un premier temps, puis après, il a laissé un message pour dire « si c'est pas trop tard, j'aimerais bien que ce soit ma dernière journée de tournage ». Donc c'était
la dernière de sa vie, de sa carrière, voilà. Son dernier plan de cinéma. Voilà.
Et donc il savait très bien que à quel point c'était un cadeau de nous offrir ça, et puis qu'on essaierait de faire ça correctement et que ça ait un sens aussi, parce que c'est vrai qu'on était très d'accord sur sur un certain type de plan poétique. On aimait bien les films de Broca avec des fois des décors un peu glauques et en même temps poétiques. Voilà.
Où il a joué, hein, il était dans Cartouche,
dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine aussi. Et il avait beaucoup d'affection pour ce cinéma-là qui était assez fantaisiste, avec toujours un endroit quand même qui était très touchant aussi quelque part.
Et dans Le Cavaleur.
Le Cavaleur, c'était très son film préféré de Broca.
Absolument, avec Nicole Garcia. Vous allez le filmer à Saint-Ouen, Jean Rochefort, près du marché aux puces, et il vous dit, mais c'est dans cette rue catastrophique que vous allez me faire finir ma carrière.
Ouais, c'était l'humour de Jean, parce qu'en fait, ça lui allait très bien, je crois. Mais c'est vrai que ce qui était fort, c'est qu'on était une toute petite équipe, et qu'à la fin de la prise, quand il y a la personne qui annonce de manière classique, c'était le dernier plan de la journée de Jean Rochefort, on savait tous à quoi ça correspondait. Ouais. On n'était pas très nombreux à clapper dans nos mains dans cette petite rue sinistre de Saint-Ouen et c'était un moment évidemment très émouvant.
On retrouve quelques paroles de votre film, quelques bribes de dialogue, de récit dans la chanson qui donne son titre à l'album Panorama.
Je m'endors dans une ville nouvelle. L'esplanade, les après-midi.
Et au fait, quand je repense à mon enfance, c'est comme si ça avait duré une seule soirée d'été.
La résidence et puis...
Infini.
Le ciel.
Très longue. Quand ça traîne, et que ça convient à tout le monde que ça traîne comme ça.
Les films sont des trains dans la nuit.
Les films sont des trains dans la nuit. Alphonse, c'est la phrase
exactement
de François Truffaut dans La Nuit américaine qu'on entend un peu plus tard dans la chanson. Il y a toujours eu du cinéma dans vos arrière-plans.
Oui, c'est vrai, j'en ai mis beaucoup quand j'ai commencé. Après, j'ai essayé de me calmer un peu. Mais dans les spectacles, j'en ai toujours mis pas mal. J'ai toujours utilisé aussi des vidéos et essayé que les spectacles soient assez cinématographiques, ce qui a d'ailleurs été le point de départ du film, parce que c'est quelqu'un qui était venu voir mon spectacle qui m'a dit « mais là, il faut vraiment faire un film maintenant ». Et après, c'est sûr que j'étais content de faire un album qui est assez peuplé. Là, le morceau qu'on entendait est arrangé par un musicien qui s'appelle French 79. C'était le principe de cet album de demander à une dizaine d'artistes différents de faire les orchestrations et de réaliser chaque titre. Parce que c'était un moment comme ça qui correspondait aussi à ce qu'il y avait dans le film. C'est-à-dire, évidemment, quand on est chanteur, il y a sa photo sur le disque et en son nom. Donc, on peut presque associer ça à une forme de choses très, très solitaire, et c'est jamais le cas. On travaille tout le temps avec des équipes et tout ça, mais là, je voulais que ça s'entende vraiment, d'où l'idée d'avoir ces voix, d'avoir fait venir des gens dans le film et d'avoir fait réaliser des titres à plein de musiciens sur l'album.
Mais ne vous excusez pas de mettre du cinéma, ça fait partie de
non,
vous.
Non, non,
Vincent
non.
Delerme, bien sûr. François de Roubaix, Woody Allen, Philippe de Broca, Trintignant, Fanny Ardant, Peter Falk, les acteurs qui s'appellent Terrence. Et là, Agnès Varda, dans cet album, à qui vous rendez hommage pour sa vie hors compétition. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un artiste ne se mesure pas au box-office?
C'est plutôt après. En plus, c'est étrange parce qu'elle, justement, au box-office, ça a plutôt bien marché, je pense, sur les dernières années de sa vie. Mais dans l'intention, c'est clair que c'était impressionnant à quel point elle mettait en place des projets qui, a priori, sur le papier, n'étaient pas forcément dans la compétition. Et voilà, qu'elle a suivi toujours son chemin. Quand on fait ça, il y a des moments où ça sourit, des moments où ça sourit moins. Mais au moins, à la fin, on peut se retourner et se dire... J'ai tracé ma route sans déjouer. Et voilà, du coup, je trouve que c'est un personnage qui dégage cette impression. Oui.
La vie Varda dans votre album. Dans votre film, on reconnaît aussi les notes d'une chanson sublime qui avait donné son titre à votre album d'il y a 3 ans.
Nous sommes la fin d'été. La chaleur, les soirs de retour. Les appartements retrouvés. La vie qui continue son cours.
Les chœurs de à présent, avec dans la chorale la voix d'Alain Souchon.
En fait, on était au studio Ferber, j'avais réuni une chorale avec que des potes, et lui, à ce moment-là, il enregistrait, ou peut-être c'était un de ses fils qui enregistrait à Ferber, donc il était venu, c'est ce qui était assez drôle, parce que du coup, il se mettait un peu à comme diriger la chorale, évidemment, quand il y a Souchon qui est là dans une chorale, tout le monde, à la fois tout le monde sourit, et tout le monde file droit, quoi. Donc c'était assez drôle, Mais c'est vrai qu'il y a des musiques en commun dans le film, et même avec cet avant-dernier album, parce que le film a mis un petit temps à se faire, et que régulièrement j'empruntais des versions qu'on n'avait pas utilisées pour les albums comme musique de film.
C'est un grand luxe de pouvoir créditer Alain Souchon en lettres minuscules sur son album.
Ah, surtout qu'il y avait plein de gens qui étaient un choral, qui après ont fait des captures d'écran. Regarde, il y a mon nom à côté de Souchon.
Un mot qu'on n'a pas employé encore jusqu'à présent, Vincent Delerme, nostalgie. Est-ce que la nostalgie, c'est un gros mot ?
En tout cas, c'est un mot qui n'est pas tout à fait adapté, mais je suis habitué à cette idée. Moi, j'aime beaucoup parler du passé et de par quoi on est passé pour en arriver là où on est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tellement sous un angle de se dire « Ah mince, j'aimerais mieux être il y a 8 ans qu'aujourd'hui ». C'est se dire « On est passé par là et ça nous a fabriqué ». C'est vraiment le ressort de tout ce que j'essaye de faire en général, l'idée du parcours et qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on en est arrivé là. Mais non, c'est un joli mot de toute façon.
Vincent Delerme, un album qui vient de paraître, Panorama, un film, je ne sais pas si c'est tout le monde en salle mercredi prochain, en salle à partir de la semaine prochaine, et des concerts à la Cigale fin octobre et début novembre, c'est complet. Il reste des places
en
début
décembre. Ouais, hein, 3 ou 7 à la Cigale.
Et puis en tournée en France à partir de février. Merci beaucoup Vincent Delerme.
Merci Patrick. Europe 1.
Ainsi s'achève C'est arrivé demain, émission préparée par Marina Prezès, réalisée par Guillaume Vasseau et Julien Blanc.